Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Le tribunal cantonal jurassien devrait quitter Porrentruy pour Moutier. C'est l'idée soutenue par le député CS Pop Christophe Schafter. L'élu de Delémont a déposé une motion en ce sens au Parlement jurassien. Un assainissement complémentaire de trois zones sableuses s'avère nécessaire pour l'ancienne décharge de Bonfol. Les secteurs se trouvent en bordure du site. Les travaux sont prévus en 2023. La justice et la sorcellerie dans l'ancien évêché de Bâle seront au cœur d'une série de conférences historiques à Tramelan. La thématique sera déclinée lors de 5 rendez-vous, dont le premier le 5 mai au CIP. Météo, un temps bien ensoleillé demain matin, malgré quelques nuages. Les cumulus devraient se montrer plus nombreux dans l'après-midi, mais ils resteront inoffensifs. Des averses sont attendues par la suite. Le groupe Vert et CS Pop au Parlement jurassien veut déplacer le tribunal cantonal de Porrentruy à Moutier. Il a déposé hier une motion qui demande le transfert du second niveau de juridiction du canton du Jura au 1er janvier 2026. Le texte est porté par le député de Némontin CS Pop Christophe Schafter. Le tribunal de première instance resterait quant à lui au château de Porrentruy. Les précisions d'Alexandre Rosset.
Toutes les instances judiciaires sont aujourd'hui basées à Porrentruy, à l'exception du tribunal des mineurs qui se trouve à Delémont. Christophe Schafter indique que le regroupement du tribunal de première instance et de celui de deuxième instance dans le même bâtiment avait suscité quelques remarques à l'époque. Il avait notamment été question de l'indépendance des juges. Le député estime qu'une clarification est opportune, même s'il n'y a selon lui aucune raison de douter de l'impartialité et de la probité des magistrats. L'élu de Lémontin souligne qu'une telle démarche enverrait un message politique particulier. Particulièrement fort au Prévotois. Il ajoute que des locaux seront disponibles à Moutier après le transfert de la ville, notamment les bâtiments qui accueillent l'actuel tribunal et le ministère public.
Une modification de la constitution cantonale serait nécessaire en cas d'acceptation de la motion par le Parlement, ce qui impliquerait également l'organisation d'une votation populaire. L'ancienne décharge de Bonfol sera bel et bien rendue totalement à la nature. Aucun autre projet d'envergure ne devrait être remis sur la table après l'échec du dernier concept de revalorisation hier soir devant l'Assemblée communale de Bonfol. La fondation Mémoire, Art et Forêt Bonfol sera prochainement dissoute, a indiqué son coprésident Yanis Cueno. Du mouvement est toutefois encore attendu sur le site au niveau environnemental. L'Office cantonal jurassien de l'environnement a annoncé aujourd'hui qu'un assainissement complémentaire était nécessaire. Jérémy Pignard.
Trois zones sableuses nécessitent encore quelques travaux. Elles ont d'ailleurs fait l'objet d'analyses complémentaires ces dernières années. Elles retiennent encore des eaux contaminées qui sont actuellement captées et traitées de manière continue. Pas de danger pour le moment, ni de conséquences attendues à court terme. Mais si on stoppe le captage de ces eaux, elles pourraient avec le temps polluer les eaux de surface. L'assainissement de ces eaux n'est pas urgent mais nécessaire, conclut le rapport d'analyse daté du mois de janvier. La chimie baloise va donc échafauder un projet d'assainissement. Il devrait être approuvé par les autorités. Deux méthodes existent. Les experts sont en train de les étudier. Les travaux, eux, sont prévus pour l'année prochaine, en 2023.
Et vous retrouvez l'ensemble des informations récentes autour de l'ancienne décharge industrielle de Bonfol sur notre site internet rfj.ch. Prendre exemple sur la Catalogne pour améliorer la représentation des femmes en politique. Une délégation d'élus suisses a passé quelques jours à Barcelone pour échanger sur la thématique. Les députés au Parlement jurassien Sonia Burich-Massmann, Leila Nini, Céline Robert-Charulinder et Géraldine Beuchat étaient du voyage. Géraldine Beuchat est de retour dans la région depuis hier soir. Elle présente les pratiques catalanes qui l'ont inspirée. Géraldine Beuchat.
Pour ancrer ça, et ça prend du temps, hein, il y a des habitudes à changer. Mais elles sont parties d'un constat déjà. Elles se sont fait aider par un bureau extérieur et elles ont répertorié tout ce qui devait être changé. Ensuite, il faut quantifier, parce que quand on dit on a le sentiment que les femmes ne sont pas beaucoup représentées, qu'on entend plus les hommes, il faut quantifier. On se rend compte, quand on quantifie, que 75% des temps de parole sont aux hommes, 25% des femmes, 23% de femmes au Parlement jurassien, c'est chiffré. Et à partir de là, quelles en sont les causes et comment on transforme ça ? Toujours dans la positivité et toujours en essayant de transformer cette société en incluant nos habitudes de femmes, d'hommes. Elles nous ont donné pas mal d'outils, des phases à suivre. Et voilà, on se réjouit de pouvoir essayer de les mettre en place.
Géraldine Beuchat était l'invitée de la matinale. Retrouvez l'interview en intégralité et en images sur rfj.ch. La ville de Delémont veut réduire la vitesse de la circulation routière à la rue du Haut-Fourneau. La municipalité a déposé déposé publiquement un projet d'extension de la zone de rencontre. Elle entend faire passer le tronçon situé entre le giratoire de la rue de l'Avenir et la route de Moutier à 20 km/h. La partie nord qui se trouve entre ce même rond-point et la passerelle du Grosse est déjà en zone de rencontre. Le dépôt public court jusqu'au 30 mai. La commune de Tramelan, le CIP et la Société Jurassienne d'Émulation se penchent sur un sujet délicat. Le 12e cycle de conférences historiques organisé par les trois institutions sera consacré au thème « Justice et sorcellerie ». Les trois entités proposent 5 rendez-vous qui couvrent plusieurs époques entre le 15e et le 18e siècle. Le thème des conférences a trouvé sa genèse dans les archives de l'ancien évêché de Bâle à Porrentruy. Le conservateur de l'institution nous en dit plus, Jean-Claude Rebetet.
Les gens de Tramelan me demandaient s'il y avait des procès de sorcellerie à Tramelan, et puis je n'en avais pas. Et en fait, l'année passée, en classant et en inventoriant les procédures criminelles d'Erguel, c'est-à-dire de la vallée de Saint-Imier au sens large, j'en ai découvert de nombreux procès concernant Tramelan ou d'autres localités d'Erguel qui portaient sur la chasse aux sorcières. C'était des procédures jusqu'ici inconnues et qui changent fondamentalement notre vision de la chasse aux sorcières dans la région.
C'est vous qui allez donner cette première conférence avec les documents que vous avez retrouvés. Vous avez choisi de vous baser sur une personne qui a échappé au bûcher mais qui était quand même accusée de sorcellerie. Pourquoi ce cas en particulier ?
Parce que c'est un très beau dossier. Il y en avait plusieurs pour Tramelan, mais celui-là est très intéressant. Il y a 81 pièces, n'est-ce pas ? C'est un énorme dossier de l'année 1655. Et cette femme, Frêne Péco-Rossel, cette femme fait l'objet de poursuites. Mais elle va résister à la torture, elle ne va jamais avouer le crime de sorcellerie, et elle sera finalement libérée. Et en fait, son cas me semble être, en 1655, un point d'inflexion où on voit apparaître un changement d'attitude des autorités par rapport à la chasse aux sorcières.
Des propos recueillis par Claire Viget. La première conférence intitulée « Frêne Rossel, une victime tramelotte de la chasse aux sorcières européennes » est prévue le 5 mai à partir de 19h30 au CIP à Tramelan. Des débats extrêmement durs vont avoir lieu au Parlement fédéral sur la neutralité. C'est ce que prédit le conseiller national UDC Yves Nideguer. Le Genevois est de retour aujourd'hui de sa visite à Kiev mercredi avec la petite délégation suisse invitée par les autorités ukrainiennes. Avec son collègue socialiste vaudois Roger Nordmann et la présidente du conseil national Irène Kellin, il a expliqué publiquement le but de ce voyage et a rendu compte des attentes de l'Ukraine. L'UDC en a alors profité pour annoncer que la neutralité suisse et la vente d'armes allaient être abordées sous la coupole fédérale. Yves Nideguer.
La gauche, qui a été extrêmement restrictive sur les questions d'exportation d'armes, est en train de changer aujourd'hui en disant qu'on pourrait au fond exporter à des alliés. Je ne savais pas qu'un pays neutre pouvait avoir des alliés. Mais comme un pays neutre a le monde entier pour allier, en théorie, on pourrait en exporter partout. Donc il va y avoir des débats extrêmement durs au Parlement sur la question. D'ailleurs, il y aura un débat prochainement sur c'est quoi la neutralité, qui va permettre à la Suisse de se positionner aujourd'hui. Il est vrai que la neutralité a muté au cours des siècles, qu'on est dans une nouvelle époque et que certaines choses vont sans doute changer. La question, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de notre neutralité pour qu'elle reste lisible. Aujourd'hui, de tous les gouvernements du monde, il y en a un seul qui croit encore que la Suisse est neutre. C'est le Conseil fédéral.
10 soldats russes ont été mis en examen aujourd'hui pour des crimes de guerre présumés à Boutcha. L'annonce a été faite par le procureur général d'Ukraine. Les hommes feront l'objet de recherches pour être amenés devant la justice. Il s'agit de la première mise en examen depuis que 20 corps de personnes qui portaient des vêtements civils ont été découverts dans une rue de Boutcha le 2 avril. Les Ukrainiens accusent les Russes de crimes de guerre, mais Moscou dément toute responsabilité et parle de mise en scène de Kiev.
18h09 à l'écoute des RFJ.
Sport. En cyclisme, les sprinteurs ne laissent pas passer l'occasion sur le Tour de Romandie. Ils se sont disputés la victoire cet après-midi sur la deuxième étape. Ethan Hayter s'est montré le plus fort à Échallens, près 168 km de course. Le cycliste britannique de l'équipe Ineos a fêté son deuxième succès en trois jours. Il a devancé l'Espagnol Jon Aberastúri et le Colombien Fernando Gaviria. Retour sur cette étape avec Mathieu Schaffner.
Une étape on ne peut plus traditionnelle sur la route du Tour de Romandie. Promise aux sprinteurs, elle a vu une échappée prendre forme dès les premiers hectomètres de course avec à nouveau un membre du Swiss Cycling National Team en la personne de Niels Brun. Le Bernois a animé la course en compagnie de trois autres coureurs, mais le quatuor n'a jamais vraiment pu rêver à la victoire d'étape, le peloton ne lui laissant pas plus de 3 minutes 16 d'avance. Maigre consolation pour la sélection suisse, elle empoche le prix de la combativité pour le deuxième jour de rang. Une fois les échappées repris à 20 km de l'arrivée, plus personne n'a pu fausser compagnie aux équipes de sprinteurs. Mais alors qu'on attendait le Colombien Fernando Gaviria, c'est Ethan Hayter qui a surgi. Vainqueur du prologue mardi, le Britannique a survolé ce sprint massif. Il empoche un deuxième succès sur la boucle romande, 24 heures après avoir chuté dans le final et cédé son maillot de leader. C'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Pas de changement en tête du classement général. L'Australien Rohan Dennis reste leader.
Et un autre Britannique s'est illustré en marge de la deuxième étape. Geraint Thomas a écopé d'une pénalité de 20 secondes et d'une amende de 200 francs avant de prendre le départ. Troisième du classement général ce matin, il a été puni pour un ravitaillement illégal hier en fin d'étape. En tennis, Belinda Bencic s'est facilement qualifiée pour le second tour du tournoi de Madrid. La Saint-Galloise a dominé la Roumaine Irina Camelia Begu en 2-7, 6-4, 6-1. De son côté, Victoria Golubic est toujours à la recherche d'une première victoire sur terre battue cette saison. La Zurichoise a perdu en deux manches, 6-7, 3-6 face à la Biélorusse Victoria Azarenka, également au premier tour du tournoi de Madrid.